Bonsoir, les denrées de première nécessité augmentent de prix depuis au moins un an en République démocratique du Congo et cette situation a encore été observée ces jours-ci dans plusieurs provinces du pays, aussi bien concernant les produits manufacturés que les denrées de grande consommation. Un groupe de députés nationaux de l'Union Sacrée a même déposé lundi dernier une motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, entre autres sur cette question de flambée de prix. Comment expliquer cette flambée persistante de prix de denrées de première nécessité en République démocratique du Congo depuis au moins un an? Quelle solution pour stopper cette flambée continue et en obtenir la baisse promise aux populations? C'est les questions au débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Guylain Maléré, directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. Guylain Maléré, bonsoir. Nous serons aussi dans ce débat avec Blanchard Mongomba. Bonsoir.
Bonsoir Radio Capi.
Vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme politique Lamouka. Et enfin, Alki Tengue, analyste économique et stratège. Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
À tous, bienvenue dans votre émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les denrées de première nécessité n'arrêtent plus de monter de prix depuis au moins un an en République démocratique du Congo et cette réalité ne concerne pas que la capitale Kinshasa. D'ailleurs, pour montrer leur mécontentement face à cette situation qui semble trop durer au pays, un groupe de députés nationaux a saisi l'Assemblée nationale pour faire tomber le ministre du secteur à qui ces députés reprochent aussi la mauvaise gestion, selon eux, de 20 millions de dollars destinés à acheter le poisson chinchard afin de faire baisser les prix sur les marchés du pays. L'éclairage de cette situation, Jean-Francis Mouya.
À Kinshasa, ce sont les prix de la farine de froment et du ciment gris qui ont sensiblement augmenté en si peu de temps. Les boulangers artisanaux témoignent que le prix du sac de la farine de froment est passé de 68 000 francs congolais à aujourd'hui 93 000 francs en moins d'une semaine. Le sac de 50 kg du ciment gris est passé de 8,3 à 9 dollars sans explication aucune de la part des grossistes. En Mbujimayi et au Kasaï oriental, les prix du carburant a augmenté. Le litre d'essence coûte 5 500 francs congolais, soit 2,6 dollars, alors qu'il y a deux jours, il s'est négocié 5 100 francs congolais, soit 2,5 dollars. Il y a également le prix de la bière qui a augmenté considérablement. Le casier des bières d'Opel, Skol, Simba et Tembo coûte actuellement 60 voire 70 000 francs contre 42 000 francs la semaine dernière. Le prix de la bouteille est passé de 4 500 francs à 8 voire 9 000 francs. Dans le territoire de Kailo en province du Maniema, le panier de la ménagère est en souffrance depuis l'effondrement du port Amboué à la suite d'une forte pluie il y a plus d'un mois maintenant. À Kamandilak, dans la partie sud du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu, c'est une carence des produits alimentaires qui s'observent depuis environ deux semaines. Le président de la société civile Sami Sakoumi indique que les prix des produits comme le riz, le maïs, les haricots, les cossettes de manioc, les arachides, le soro ont connu une hausse d'une moyenne de 50% sur le marché local. D'après lui, la demande a augmenté sur terrain par rapport à l'offre. La même situation de hausse des prix est constatée dans toutes les provinces de la RDC.
Et donc, devant cette situation de flambée continue des prix sur le marché de la République démocratique du Congo, nous avons approché un enseignant des sciences économiques et gestion, le professeur Emmanuel Mukundi de l'Université de Kinshasa, nous donne ici son analyse de cette situation. On l'écoute au micro d'Adolphine Goy.
La première des choses comme remède, c'est la vérité. L'économie est têtue. Il ne faut jamais cacher les chiffres. Quand on nous présente les chiffres, prenez tous ceux qui lisent les chiffres congolais, ils vous diront qu'il y a beaucoup de mensonges. Lorsque vous comparez, par exemple, les chiffres qui sont réalisés ici chez nous et les chiffres qui sont réalisés par les institutions internationales, vous allez vous rendre compte que nous mentons. Par exemple, lorsque nous présentons nos importations, nous minorons nos importations, tout simplement parce que il faut frauder au niveau des douanes, et qu'on sort, il y a des fraudes, il y a des magouilles au niveau des douanes, d'où il faut minorer les importations. Alors que si vous prenez les données de l'Organisation mondiale du commerce, où j'étais à un certain moment, d'ailleurs je suis comme membre de la chaire OMC, vous remarquerez que nous importons beaucoup. Mais alors, pourquoi ces mensonges-là? Ça nous rattrape toujours. Et puis des deux, nous disons, quand nous présentons notre PIB, c'est-à-dire la richesse nationale, Il y a toujours le mensonge. Et puis des deux, dans d'autres cieux, il y a deux catégories d'économistes. Les économistes qui sont conseillers aux côtés des décideurs économiques. Il y a aussi les économistes qui sont chercheurs. Le problème est structurel, mental d'abord, après mental, la prise de décision, ceux qui prennent des décisions, et de trois, dans la mentalité, j'ai mentionné les mensonges.
Guylain Maléré, directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. Vous venez, entre autres, d'écouter un enseignant des sciences économiques et gestion donner son analyse. Les auditeurs que vous allez écouter d'ailleurs dans cette émission ont aussi leur version d'explication de ce qui arrive. Vous êtes au ministère de l'économie nationale. Comment expliquez-vous cette flambée de prix récurrente et continuelle pendant au moins une année, alors que avant qu'on arrive à cette flambée, le gouvernement se battait plutôt pour avoir la baisse des prix sur le marché?
Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez d'éclairer un tant soit peu l'opinion. J'aimerais d'abord dire ici qu'avec tout le respect que je dois à l'intervenant de tout à l'heure, monsieur le professeur, son intervention nous a laissé sur notre faim quand il parlait des mensonges. J'ai cru qu'il allait comparer des chiffres. Finalement, il ne l'a pas fait. Et là, je constate tout simplement qu'il a dit notamment qu'il y a minoration des importations. Et bon, il n'a pas dit à qui il impute ça, parce que ce n'est pas l'État qui importe et qui minore dans ses déclarations les quantités importées. Et donc, mon opinion, c'est qu'il nous a vraiment laissé sur notre faim. Peut-être qu'il pourra compléter sa pensée plus tard. On ne peut donc pas commenter une pensée qui n'a pas été exprimée en entier. Par contre, sur la question de la hausse globale du niveau des prix dans le pays, c'est vrai, c'est une réalité que tout le monde constate en allant sur les marchés, notamment la ménagère. Mais il convient ici de préciser que ce phénomène n'est pas que national, n'est pas que congolais, dans la mesure où déjà pour ceux qui consultent régulièrement l'indice des prix des produits alimentaires qui est publié régulièrement par le fonds, le FAO, donc qui est le fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, eh bien, constateront que la hausse des prix est au niveau mondial. Et ça fait à peu près justement une année que le FAO a signalé dans ses différents rapports que c'est au niveau mondial qu'il y a eu hausse généralisée des prix, et c'est dû, selon la FAO, à deux phénomènes combinés, à savoir la crise Covid, qui avait contracté énormément l'économie mondiale, mais aussi à la situation de conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, qui aussi a un impact important.
Mais Guylain Maléré, vous continuez à garder la parole, mais permettez-moi de vous relancer à ce sujet. Vous continuez à développer les arguments. Mais êtes-vous d'accord que une année avant, ou même un peu plus, hein, quand le gouvernement a décidé de s'asseoir avec les importateurs en République démocratique du Congo pour ramener le prix de certains besoins et de certains articles à la baisse, il n'y avait pas encore de plainte de flambée, il n'y avait même pas encore les observations que vous faites venant du FAO que vous avez évoqué ici?
Oui, absolument, c'était avant la crise Covid. Le niveau des prix, c'est vrai, était élevé, mais n'était pas le même qu'actuellement.
Mais qu'est-ce qui expliquerait alors que, soulignons que la Covid dure déjà depuis plus de 2 ans, entre une année et 2 ans, il y a des explications supplémentaires que vous pouvez fournir pour qu'on puisse comprendre le lien entre Covid et la situation actuelle, parce que je rappelle, la Covid a plus de 2 ans, la situation, vous la décrivez comme datant d'une année, mais à ce moment-là, les prix... au moment où le gouvernement a voulu ramener les prix plus bas, il n'y avait pas de plainte de la population de manière particulière sur le prix, mais le gouvernement avait senti qu'il y avait nécessité de ramener certains prix à la baisse, et cela a été fait notamment avec les prix des billets d'avion, et ça a été quelque chose qui a été apprécié par la population. Mais juste après cette tentative du gouvernement, la nourriture par exemple, et d'autres denrées de première nécessité ont commencé à flamber. Comment expliquer cela?
Oui, c'est encore une fois assez simple dans la mesure où tout le monde reconnaît que notre économie est extrêmement extravertie. c'est-à-dire nous vivons des importations. Le marché intérieur est approvisionné à près de 80%, si pas plus, par des produits importés, dont les cours sont fixés sur les marchés internationaux. Et donc, quelque part, c'est une situation déplorable, évidemment, mais ça fait que la spéculation au niveau des importations et des exportateurs de ces biens de grande consommation impacte forcément les prix ici au niveau national. Et quand vous parlez de l'activité et l'action que le gouvernement avait menée, c'était justement pour tenter de rationaliser les prix tels qu'ils étaient pratiqués ici, parce qu'il y a aussi le phénomène de spéculation, mais aussi fraude au niveau des prix que le gouvernement était en train de combattre en essayant de rationaliser les structures des prix, ce qui a abouti, bien entendu, à une certaine amélioration du niveau des prix. Ce n'est pas que le gouvernement s'est battu pour la baisse du profit des prix, mais le gouvernement a fait une action de rationalisation des structures des prix parce que à l'importation, il y avait beaucoup de fraudes. Ça a été dénoncé déjà par l'intervenant, le professeur qui est intervenu tout à l'heure. Mais aussi au niveau de la structure des prix qui sont pratiqués sur les marchés, structures qui sont malheureusement généralement surchargées d'éléments qui n'auraient pas dû y être incorporés. Nous reconnaissons aussi néanmoins qu'à côté de cela, et ça a été constaté après des concertations avec le secteur privé, qu'il y a aussi une fiscalité, une parafiscalité qui pèse aussi sur les importations et qui contribue au surenchérissement des prix. Donc c'est une problématique globale sur laquelle le gouvernement est en train de travailler dans un contexte assez difficile aussi de guerre à l'est du pays où vous savez que vous avez cité notamment ici des prix dans certaines provinces qui ont aussi augmenté. Mais il ne faut pas oublier que dans ces provinces-là, l'espace productif national est fortement perturbé par l'insécurité qui prévaut dans certains milieux ruraux.
Directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale.
Agriculture, pêche et autres.
Directeur.
En gros, donc c'est un problème assez complexe.
Directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Guylain Maléré. Mais est-ce que la situation de flambée de prix actuelle n'est pas aussi un peu liée, et peut-être même voire particulièrement liée au fait que le gouvernement, dans sa tentative de vouloir amener les prix bas ou de rationalisation, comme vous avez nommé ça, a plutôt énervé les opérateurs économiques, les a fâchés à tel point que ils ont manipulé ce qu'ils avaient à manipuler au niveau de la vente, et du coup on s'est retrouvé avec cette situation que le gouvernement ne réussit pas encore à contrôler.
Non, je ne vais pas me livrer à une telle spéculation, et ce serait trop facile d'expliquer des phénomènes économiques liés à l'offre, à la demande, à l'espace productif national, de résumer tout ça par une volonté de quelques personnes qui désirent manipuler l'économie. Il est vrai que le gouvernement a constaté au cours de l'action qu'il est en train de mener, qu'il y a des opérateurs économiques qui ne respectent pas la réglementation nationale en matière de fixation des prix. Vous savez que pour fixer les prix, il y a des règlements qui précisent la manière dont le prix de revient est constitué, quels sont les éléments incorporés dans la structure des prix, les marges bénéficiaires, etc. Bon, il y a des opérateurs économiques, certes, qui ne respectent pas cela et qui pratiquent l'évasion fiscale, l'évasion au niveau de la douane, etc. Mais la hausse des prix ne peut pas s'expliquer uniquement par ce phénomène-là. Il y a d'autres paramètres purement économiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qui font qu'il y a surenchère au niveau des prix. Vous savez que le fret maritime, par exemple, a quasiment triplé, si pas quadruplé, au niveau international après la crise Covid et la reprise des activités au niveau international. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une disponibilité des conteneurs pour les marchandises à destination des zones comme l'Afrique subsaharienne ici. Et tout ça a vraiment surenchéri le coût du transport au niveau international, et tout ça impacte les prix. Donc on ne peut pas ramener ça, n'est-ce pas, à la responsabilité de quelques opérateurs économiques. Le phénomène est mondial, mais aussi il y a des causes structurelles internes. Je vous ai parlé de l'aménagement de l'espace productif national, mais qui a aussi des préalables en termes de sécurité et autres. Donc c'est vraiment problème complexe et global.
Guilhem Allaire, merci pour ces premières questions. Il y en a tellement que les populations se posent et que nous souhaitons vous les poser. Nous espérons avoir le temps d'en vider le maximum, si pas à toutes. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme politique Lamouka. Vous venez d'écouter les explications du ministère de l'économie nationale à travers son directeur de cabinet. Tout à l'heure, vous allez aussi écouter l'analyse des auditeurs. Mais vous, à votre niveau, quelle analyse faites-vous de cette flambée des prix un peu généralisée des biens de consommation depuis au moins une année, et particulièrement ces dernières semaines? On a vu des prix qui semblaient être un peu stables, flambés, et cela concernant presque tous les biens et services.
Merci une fois de plus, Donama Dimba, pour l'opportunité que vous nous accordez pour essayer de donner notre lecture par rapport à cette question de flambée des prix. Mais d'entrée de jeu, laissez-moi déjà responsabiliser aussi les députés, parce que dans votre introduction, vous aviez démontré qu'il y a un groupe de députés qui ont saisi les bureaux pour une motion contre le ministre. Il le reproche justement cette question de prix. Mais moi, je commence par poser la question sous forme de préalable. Ces députés, puisqu'ils ont la mission de voter et le programme du gouvernement et le budget censé accompagner ces programmes chaque année, qu'est-ce que ces députés ont retenu par rapport à la politique, à cette politique de prix dans notre pays? Qu'est-ce qu'ils ont retenu par rapport à la production? Qu'est-ce qu'ils ont retenu par rapport justement aux opérateurs économiques nationaux? Ça, ce sont des questions que nous devons commencer par poser aussi à ces députés-là avant de leur voir jouer leur rôle, puisque je me dis que les responsabilités sont à partager, notamment dans le chef de ces députés qui ne jouent pas réellement leur rôle. Mais par rapport à ce que je viens d'entendre tout à l'heure de notre mon co-débatteur, mais ça me laisse quand même perplexe, puisque je me dis, la Covid, c'est vrai, en République démocratique du Congo, lorsque vous parlez des élections, lorsque vous parlez des flambées des prix aujourd'hui, toutes ces questions, on vous renvoie rapidement à cette crise de Covid. Mais je vous signale déjà que la France va avoir ses élections dans quelques jours, et les prix, là-bas, je ne crois pas que les prix ont augmenté tels que chez nous en République démocratique du Congo. La guerre en Ukraine, c'est vrai, la guerre a commencé aujourd'hui, mais vous l'aviez dit. Mais dans tout ça, est-ce que les ministères de l'économie ou le gouvernement peut nous dire que il avait pris des dispositions pour nous éviter justement à ces genres de catastrophes? Parce que gouverner, c'est prévoir, comme l'on dit toujours. Mais lorsque aujourd'hui on veut évoquer la situation de Covid, la situation de guerre, et sans tenir compte justement du fait que lorsque l'on gère, on est censé prendre des précautions pour ne pas faire face à ces genres de chocs exogènes, ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre la mesure de la question, on n'est pas capable de gérer un État d'où on doit simplement démissionner. J'ai entendu messieurs le co-débatteur parler de l'économie qui est extravertie. Mais quelles sont les stratégies, quelles sont les politiques publiques mises en place par ces ministères et par conséquent par son gouvernement pour que nous ne puissions pas dépendre chaque fois des productions des étrangers? Est-ce que le Congo, aujourd'hui, avec toutes les potentialités que nous avons, nous sommes incapables de produire au niveau interne? Quelles sont les stratégies, quels sont les mécanismes que le gouvernement, partant par le ministère de l'économie, a mis en place pour nous éviter justement toutes ces questions-là? Mais puisqu'il a parlé justement de ces causes externes, je me pose la question. Le gouvernement nous a vanté ici que dans moins d'une année, je ne sais pas moi, depuis la venue du gouvernement Samalou Kondé, on a aujourd'hui plus de 3 milliards de réserves de change. Mais à quoi servent ces réserves de change? N'est-ce pas pour nous permettre justement à résister face aux chocs exogènes qui nous proviennent notamment de cette crise de Covid et même de la guerre à l'Ukraine? Mais si, c'est simplement pour montrer aux yeux du monde que non, ben voilà, on sait faire l'économie, comme un parent Mukongo, on peut bien accepter rester affamé, mais c'est bomber la poitrine en disant que nos caisses sont en vie, respirent, eh bien, c'est que l'on ne sait pas ce que l'on veut. Donc moi, je pense que ici, c'est que l'expert, le professeur avait dit tout à l'heure, le mensonge ici incombe aussi au gouvernement, incombe à ceux qui nous dirigent aujourd'hui par défi, parce qu'on sent qu'ils sont dans des chiffres pompeux, sans que nous puissions sentir justement l'incidence de ces chiffres pompeux qu'ils nous présentent, par exemple lorsqu'ils parlent de réserve d'échange, par exemple lorsqu'ils nous parlent de la production au niveau interne qui doit impacter sur le PIB et que par conséquent, au niveau du panier de la ménagère, on ne le sent pas. Ça veut dire qu'il y a manipulation dans le chiffre, même lorsqu'il nous parle de collecte au niveau de la fiscalité. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui rassurent effectivement l'économie et se porte bien. Le gouvernement doit être conséquent en disant que, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais présenté une politique publique claire en matière de la production en République démocratique du Congo de manière à impacter sur le prix des denrées dans notre pays.
Merci Blanchard Mongomba. Vous l'avez déjà dit, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Alki Tengue, analyste économique et stratège, je vous ai déjà entendu plusieurs fois et même très récemment sur cette question de flambée de prix. Votre argumentation était que c'était une situation prévisible que vous aviez d'ailleurs annoncé plusieurs fois selon vous dans d'autres interventions. Vous imputiez la situation actuelle notamment déjà, un peu comme l'a expliqué tout à l'heure le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, à la Covid. Je vous ai entendu récemment aussi soutenir que les conflits actuels en Russie et en Ukraine ont ajouté de leur saveur à cette situation qui n'est pas facile pour la RDC. Confirmez-vous à ce stade que ces deux éléments, y compris d'autres, sont à la base des flambées de prix rencontrées actuellement en RDC?
Je voudrais, de manière assez claire, expliciter ma pensée. Et c'est très embarrassant de parler après des politiciens, mais je vais faire les choses de sorte que ça reste clair pour ceux qui nous suivent. La première des choses, nous avons depuis 60 ans une économie extravertie. On a produit de moins en moins et chaque année encore moins en République démocratique du Congo et on a privilégié les importations. La raison pour cela, c'est que c'est de l'argent facile. Et on se retrouve malheureusement, y compris dans les importations, avec l'implication contre toute attente des hommes politiques qui s'associent à des opérateurs économiques malheureusement étrangers pour favoriser des opérations où la fraude est massive au détriment de la République. Ça a agenouillé le pays. Cette situation de précarité économique dans laquelle se noie le pays et dans cette extraversion économique, on se retrouve dans une situation où on a un choc puissant comme celui de la pandémie de Covid-19. Les gens ont eu tort de sous-estimer le choc et ont pensé que ça pouvait passer comme le choc sanitaire est passé. Le choc économique était un choc intrinsèque. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à avoir les conséquences réelles et visibles de cette pandémie de Covid-19. Parce que finalement, les grandes puissances ont toussé et l'onde de choc nous touche. Très malheureusement, pendant que le monde entier est en train de se battre pour essayer de contenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, la perturbation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine viennent désordonner la répartition des biens disponibles sur le marché et nous encaissons le prix de manière la plus frontale. Personne ne peut nier cela, c'est une vérité. Nous ne produisons pas du blé et quand il y a une perturbation sur le marché du blé, sauf magie, il n'y a pas moyen de faire les choses différemment. Maintenant, je voudrais insister sur quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure. Notre économie est tenue en grande partie par des étrangers, très malheureusement, qui se sont habitués à frauder de manière massive parce que nos administrations étaient très faibles, et elles le sont encore.
Alors aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, je l'ai dit, lorsque le gouvernement a été en conflit avec des opérateurs économiques et importateurs de biens de première nécessité, essentiellement des surgelés, je l'ai dit de manière assez claire que nous étions dans une guerre économique. Les gens ont compris la moitié du message que j'ai donné. Ce que je voudrais dire, c'est que ces gens, ils ne baisseront pas le prix. Ils tenteront le tout pour le tout, parce qu'ils savent très bien que si on fait des redressements, il y en a qui vont simplement aller en prison et d'autres qui vont être ruinés. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'ils se payent le service d'un certain nombre de nos députés qui refusent de regarder le problème dans le fond. Nous avons un véritable problème de structure économique. Nous avons un véritable problème de transformation de notre économie. Nous devons absolument, et le monde le démontre de manière assez claire, qu'on ne peut pas aller dans la mondialisation folle, surtout quand on est un pays faible. Nous devons être en mesure de nous assurer que nous avons suffisamment de produits pétroliers sur notre territoire, que nous avons suffisamment de nourriture sur notre territoire et que nous avons suffisamment de médicaments sur notre territoire. Et ça, ça nous permettrait de pouvoir résister à n'importe quel choc, ne serait-ce que pour 3, 4, 5, 6 mois. C'est pour ça que j'en appelle ici à la mise en place d'une véritable réserve stratégique financée et voulue. Et aujourd'hui, une des choses que l'on doit être en mesure de tirer comme leçon, c'est qu'on ne peut pas dépendre, y compris pour le sel et pour les cure-dents, de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas une question politique. C'est une question d'économie globale. Et tout le monde sait très bien que quand on parle d'économie, ce sont les privés. Et encore une fois, si on désire aller dans une économie qui est tenue par les privés, les politiques publiques doivent être mises en place pour qu'on arrête ce qui s'est passé. Nous sommes en train de subir les conséquences d'une économie de 60 ans de prédation. Et en fait, pour changer cela, c'est renoncer à la corruption, renoncer à la fraude et mettre en place un système fiscal moderne qui puisse permettre que nous ayons une économie viable.
Mmh. Alguy Tengue, sans vous couper, vous allez continuer de garder la parole et probablement les arguments que vous voulez embrayer vont revenir sur cet élément supplémentaire. Puisque vous donnez votre analyse et que dans votre analyse, vous dites que notamment les députés auraient dû comprendre que cette situation devrait arriver et ne pas vouloir s'acharner que sur les acteurs politiques, sauf si j'ai mal compris votre pensée. Je vais vous donner la possibilité d'écouter aussi l'analyse de cet auditeur et après vous allez réagir si vous accordez sur tout ou s'il y a des bémols dans sa réflexion.
Junior Mbongo, à partir de la ville province de Kinshasa. Moi, je dirais que ne valons pas la face pour cacher l'échec économique notoire du pays au sein du ministre de l'économie, car les fameux des prix des produits de première nécessité s'expliquent aussi par la spéculation des entreprises et aussi le faible pouvoir d'achat des Congolais, mais aussi d'évaluation du franc congolais, sans moindre contiguïté de la hausse des prix des carburants partout au pays, surtout avec la récente guerre russo-ukrainienne qui impacte divers secteurs dans une certaine mesure.
Alguy Tengue.
Il y a quelque chose sur lequel nous avons une obligation d'honnêteté intellectuelle. C'est que nous avons un problème national de structure de l'économie. La folie furieuse dans laquelle nous avons vécu les 60 dernières années, c'est la fracture entre le rural et l'urbain. Cela a ainsi été voulu par les colons. Nous avons maintenu ça pendant 60 ans. Qui fait qu'aujourd'hui, l'économie urbaine, celle sur laquelle vous tirez toutes les conclusions que vous tirez, elle est fragile. C'est une question qui est au-delà de la politique, c'est une question de société. Et je voudrais ici inviter ma nation à une réflexion profonde sur comment voulons-nous vivre ensemble. Et on a un prétexte positif, il est présidentiel. C'est cette manière de vouloir poser la gestion de la République sur les 145 territoires. Encore un peu plus tard, il faudra descendre beaucoup plus bas. Et on se rend compte que la force d'un pays, c'est l'unité de sa nation, c'est sa complémentarité. Et nous, on a pêché pendant 60 ans à avoir une économie urbaine qui pille l'économie rurale. Et aujourd'hui, un choc externe vient nous démontrer les limites de cette façon de réfléchir.
Mais Alguy Tengue,
au-delà de l'économie et du Parlement, toute la nation scientifique et intelligente doit réfléchir.
Et Alguy Tengue, vous pensez que cette réflexion, elle va prendre du temps? Y a-t-il une solution brève, rapide, pour déjà arrêter cette flambée?
Il y a une solution d'urgence. Et lors de la crise de Covid-19, le chef de l'État avait tenté quelque chose, c'est de stimuler les achats locaux pour être en mesure de stimuler la consommation locale. Et très malheureusement, ça a été stoppé. Il faut reprendre cette activité et influencer le fait que nous devons être en mesure d'apprendre à consommer local. Je faisais des propositions sur une autre de chaîne de radio, de télévision, je ne sais plus très bien. Je disais, par exemple, en ce qui concerne le manioc, il peut remplacer jusqu'à 30-40% une partie du blé dans du pain qui est une consommation courante dans des grandes villes. Et je disais également que, par exemple, le blé, parce que nous en consommons beaucoup, on peut le produire ici, comme l'Éthiopie le fait, comme le Brésil, qui a le même climat que nous, le font. Ça sous-entend qu'en fait, il y a des choses qui peuvent provenir de notre acceptation d'un certain nombre de changements pour avoir des résultats immédiats, mais il y a également des choses qui doivent prendre 3 mois, 6 mois, 1 année, 5 ans pour que nous ayons des résultats durables.
Merci.
Mais c'est aujourd'hui où qu'il faut commencer. On doit s'arrêter pour dire ça, ça ne devrait plus jamais nous arriver dans l'impréparation la plus totale, et c'est pour ça que je dis la mise en place d'une forte réserve stratégique est très importante.
Merci Alkitenge Guilin, Maléré, directeur de cabinet du ministre de l'économie. Vous avez donc eu le temps d'écouter vos co-débatteurs et même certains auditeurs. À cela, je vais quand même ajouter, avant votre réaction, ce commentaire de cet auditeur de Kananga.
C'est Martinez Kunyunga depuis Kananga. Nous regrettons beaucoup parce qu'en plus de l'insécurité, la population fait encore face à la hausse des prix des denrées des premières nécessités. Bien plus, le gouvernement doit privilégier le secteur agricole et aménager les routes de desserte agricole.
Guilhem Aléré, qu'est-ce que vous pensez des propositions faites déjà par vos co-débatteurs qui ont parlé juste après vous, mais surtout aussi de ce que les populations congolaises disent depuis presque toujours? Pourquoi il n'y a pas de production locale au niveau de pouvoir tenir pour le pays et de pouvoir même exporter? Pourquoi tout le monde reconnaît que l'économie est extravertie, qu'il faudrait qu'il y ait une production locale, mais année après année, régime après régime, cette production locale n'a jamais lieu?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis heureux de constater que, après toutes les interventions que j'ai entendues, on revient sur le diagnostic qui a déjà été fait de notre économie. Eh bien, comme toutes ces choses sont connues, vous vous souviendrez que lors d'un conseil des ministres, je ne sais plus lequel, son excellence le premier ministre, premier président de la République, pardon, avait insisté sur le fait que il convient de faire en sorte que notre économie ne dépende plus notamment du secteur extractif, c'est-à-dire des ressources naturelles, des minéraux que l'on extrait du sol, parce que c'est là notre principale source de recettes budgétaires. Et que donc la diversification de l'économie nationale devrait revenir sur la table comme une voie de sortie, n'est-ce pas, de notre dépendance, notamment aux exportations, en essayant de promouvoir notre espace productif national. Et donc, par rapport à cela, vous savez que c'est un programme qui est très grand, qui ne peut pas, contrairement, je comprends l'impatience des consommateurs que nous sommes, mais vous savez, ça c'est un programme qui exige des moyens énormes, des moyens budgétaires énormes. Or, vous avez déjà entendu dire que, entre-temps, il y a des personnes qui s'évertuent à faire prévaloir notamment la fraude, l'évasion fiscale, la fraude douanière, etc., combattant ainsi les efforts de l'État à mobiliser les recettes pour notamment implémenter les préalables à cette diversification de l'économie. Vous ne pouvez pas diversifier l'économie sans investir massivement dans l'énergie pour augmenter la desserte en énergie. Vous savez qu'il n'y a pas d'industrialisation d'un pays sans énergie disponible. Vous savez que les investissements dans les voies de communication, on en a parlé tout à l'heure, les routes, les voies ferrées, les voies navigables, etc., exigent des investissements énormes, de même que en ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire faire en sorte que les voies d'évacuation des centres de production vers les centres de consommation soit réhabilité et d'autres construits.
Alors, Guilhem Aléré, nous sommes malheureusement en train de conclure cette émission.
Et la fraude massive est en train de combattre les efforts de l'État dans ce sens-là. Mais l'État est bien conscient et les actions du ministère de l'Économie s'inscrivent notamment dans la lutte contre cette fraude massive qui fragilise le budget de l'État.
Guilhem Allaire, on comprend bien que les causes de cette situation d'aujourd'hui sont nombreuses. On aimerait les écouter toutes, mais on est aussi dans cette émission dans l'obligation de vous demander les propositions concrètes vu la situation qui est aussi concrète et urgente qui peine beaucoup les populations. Vu cette flambée persistante des prix actuellement dans tout le pays et les difficultés que vivent les populations, que prévoit de faire le gouvernement très rapidement, concrètement, dans les jours à venir pour maîtriser cette flambée et peut-être soulager les populations asphyxiées?
Mais je vous ai dit tout à l'heure, là, en parlant, je crois m'être fait entendre que le gouvernement a déployé des efforts énormes, d'abord, pour lutter contre les effets pervers de la fraude dans tous les secteurs.
Donc vous pensez qu'on aura les résultats?
J'ai mis sur sa table la question de la diversification de l'économie. Je vous ai dit que pour ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'énergie, des voies de communication, de l'agriculture, etc., le gouvernement est en train de faire des efforts pour faire venir des opérateurs qui disposent des capitaux, n'est-ce pas, dans le secteur pour pouvoir et promouvoir ces différents secteurs qui, eux, vont permettre ensuite la diversification de l'économie.
Alors, est-ce que je dois comprendre?
Sont en train d'être faites pour le moment. Vous avez le travail de l'IGF, vous avez le travail du ministère de l'économie, vous avez tout ce que le ministère du commerce extérieur est en train de faire en termes de mettre notre pays en possibilité, en position de pouvoir adhérer de manière efficiente à tous les espaces économiques qui sont en train d'être implémentés au niveau régional.
Guilhem Allaire, la population qui vous écoute, la population qui vous écoute doit-elle retenir de cet entretien aujourd'hui que les actions immédiates, concrètes, pour deux semaines, un mois, pour arrêter cette flambée de prix n'existent pas, mais qu'il doit plutôt patienter dans l'ensemble des actions de manière générale qui sont en train d'être faites au niveau du gouvernement?
Bon, c'est comme si vous me demandiez, par exemple, si nous allons dire à la Russie et à l'Ukraine de cesser la guerre pour que les produits pétroliers baissent, parce que vous savez que, par exemple, les produits pétroliers, c'est un train, comment dire, fondamental dans la structure des prix de pratiquement tous les produits. Tout à l'heure, quelqu'un a semblé dire qu'il n'y a pas d'inflation en France, c'est faux. Là-bas aussi, ils déplorent l'inflation due à la hausse du coût de l'énergie. Donc, vous savez, il y a des paramètres sur lesquels, qui sont exogènes, qui relèvent d'un choc exogène sur lesquels le gouvernement, malheureusement, ne peut pas travailler. Mais en ce qui concerne ce qu'il y a à faire au niveau interne, le gouvernement est en train de déployer énormément d'efforts. Vous savez que j'ai ici évoqué la question de la fiscalité, la parafiscalité, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Par exemple, dans le secteur de l'aviation, on n'en parle pas. Il y a des allègements qui ont été accordés aux opérateurs de ce secteur-là pour leur permettre de revoir leurs coûts à la baisse, notamment en matière de fret, en tenant compte du fait que pour le moment, la voie aérienne est la plus pratiquée pour ce qui est de la circulation des biens et des personnes.
Merci Guilhem Malhéré. Maître Blanchard Mongomba, pour vous aussi, face à un auditeur, cette réflexion.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Tout a salué la motion de défiance initiée par un groupe de députés nationaux de l'Union Sacrée contre le ministre de l'Économie, qui est un exercice faisant partie de leur mission régalienne, notamment celle de contrôler l'action gouvernementale. La flambée des prix des denrées de première nécessité s'explique, à mon avis, par plusieurs facteurs, dont l'incapacité du gouvernement à faire asseoir une politique basée sur la production et la consommation locale, la non-réglementation par l'État des prix dans les divers marchés du pays, la dépendance totale vis-à-vis de l'extérieur ou de l'importation.
Blanchard Mongomba, votre réaction?
Je crois que notre auditeur a totalement raison, parce que il est vrai que les difficultés ou la crise à Covid, la guerre à l'Ukraine sont de réalité ou des chocs exogènes qui normalement, nécessairement, doivent impacter sur l'économie nationale et dans au niveau mondial, c'est tout à fait logique et normal. Mais le problème n'est pas de constater cela, le problème est de savoir ce que le gouvernement a pu faire, puisque nous comptons ont aujourd'hui depuis qu'ils sont là plus de 3 ans. Est-ce que monsieur veut nous dire que nous devons continuer à espérer encore tel qu'il l'a dit là, parce que vous lui avez posé une question directe, c'est que le Congolais peuvent attendre dans 2, 1 ou 3 mois ici pour essayer de résorber cette question. Il nous a donné des promesses de 10 à 15 ans. Donc pourtant, ils auraient pu mettre en place sur la table une politique pour renforcer par exemple la production. Monsieur Al-Kitenge l'a dit, notre économie, c'est depuis 60 ans que nous avions commencé à la détruire. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir en tant qu'un nouveau régime, la politique à mettre en place, c'est de résoudre ce que nous constatons, ce que nous avons comme problème, comme difficulté.
Mais Blanchard Mangomba, comme vous l'avez souligné, hein, le directeur de cabinet du ministre n'a peut-être pas voulu faire une promesse peut-être fallacieuse supplémentaires, mais vous, en tant que aussi intellectuel de la République démocratique du Congo, vous proposeriez quoi au gouvernement comme solution rapide pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour résoudre cette situation d'aujourd'hui?
Je ne suis pas technicien, mais comme analyste politique, comme Congolais qui subit ces, en tout cas, flambées des prix, je dirais que si réellement il existe de réserves de change, ça doit servir justement à cette question. Ils doivent utiliser cet argent pour nous permettre justement, puisque nous n'arrivons pas à produire au niveau interne, nous devons importer tout ce que nous manquons, ce qui font à ce que les prix soient, en tout cas,
stable.
Plus qu'on essaye de monter dans le marché, qu'on essaye d'acheter pour essayer de nous préserver de ces chocs, mais également à long terme, il faudrait commencer par la mise en place d'une politique censée accompagner les infrastructures, parce qu'il a cité les infrastructures ici comme des difficultés qui ne permettent pas ce que nous puissions atteindre ce que nous voulons. Mais quelle est la solution? Puisque moi, je reviens du Kwilu, je n'ai vu aucune politique qui est mise en place pour essayer d'accompagner la République à mettre en place des infrastructures de manière à accompagner la production locale. Ce sont là les questions que le gouvernement doit se poser pour nous donner des solutions. Mais malheureusement, comme c'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement qui n'est pas sorti, en tout cas, de notre peuple, c'est tout à fait normal que ce gouvernement s'est contente à nous citer les difficultés que nous avons au lieu de nous donner des solutions pour essayer d'espérer mieux vivre.
Merci Blanchard Mangomba, à Al-Kitenge, mais aussi à Guylain Maléré, directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, pour avoir trouvé le temps de venir analyser avec les populations ensemble la situation d'aujourd'hui. Polydor Basunga, Guimaté et Kéline Kouté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.